Tistou les pousse vers 3. Où Tistou fait un rêve affreux et ce qu'il en résulte. Certes, Tistou se posait trop de questions. Il s'imposait même en dormant. La nuit qui suivit la leçon d'ordre, il eut un épouvantable cauchemar. Bien sûr, les rêves ne sont que des rêves. Il ne faut pas leur accorder une importance exagérée. Mais on ne peut s'empêcher de rêver. Or, Tistou, dans son sommeil, vit son poney gymnastique entièrement rasé, qui marchait en rond entre des grands murs sombres. Et derrière lui, les purs sans groseille, la tête rasée aussi, habillés de costumes rayés, le pied lourd et traînard dans des bottines ridicules, tournaient sans s'arrêter. Soudain, le poney gymnastique, regardant et à droite et à gauche pour s'assurer qu'on ne le voyait pas, prit son élan, bondit afin de franchir la grille et retomba sur les grands piquants de fer. Planté là-haut, il battait de l'air de ses quatre chaussures et hennissait lamentablement. Tistou se réveilla en sursaut, le front moite, le cœur battant. Heureusement que ce n'était qu'un rêve, se dit-il bien vite. Gymnastique est à l'écurie et les purs sang aussi. Mais il ne parvint pas à s'endormir. Ce qui serait si triste pour des chevaux doit être encore pire pour des hommes, pensait-il. Pourquoi rendre aussi laid ces pauvres prisonniers? Ils n'en deviendront pas meilleurs. Je sais bien que moi, si l'on m'enfermait là, même sans avoir rien fait de mal, je finirais sûrement par être très méchant. Que pourrait-on faire pour qu'ils soient moins malheureux? Il entendit sonner 11 heures, puis minuit, au clocher de Mirepoix. Il continua de se poser des questions. Et soudain, une petite idée lui gratta le fond de la tête. Et si on leur faisait pousser des fleurs à ces gens-là? Cela rendrait l'ordre moins laid et les prisonniers deviendraient peut-être plus sages. Si j'essayais mes pouces verts, j'en parlerais à M. Trounadis. Mais il pensa aussitôt que M. Trounadis deviendrait tout rouge. Il se rappela le conseil de Moustache, ne pas parler de ses pouces verts. Il faut que je fasse cela tout seul sans qu'on le sache. Une idée qui s'installe dans la tête devient résolution. Une résolution ne laisse l'âme en paix que lorsqu'on l'a accomplie. Tistou sentit qu'il ne pourrait pas se rendormir avant d'avoir mis son projet à exécution. Il sortit de son lit, chercha ses pantoufles. L'une s'était cachée sous la commode et l'autre se moquait de lui, pendu à la poignée de la fenêtre. Voilà ce que c'est que de lancer ses pantoufles en l'air. Tistou se glissa hors de la chambre. Les gros tapis étouffaient ses pas. Doucement, il gagna la rampe, se laissa glisser sur le ventre. Dehors, la lune était pleine. Elle avait gonflé ses deux joues et avait l'air tout neuf. La lune est plutôt favorable aux gens qui se promènent la nuit. À peine aperçut-elle Tistou dans sa longue chemise blanche au milieu de la pelouse, qu'elle se donna vite un grand coup de polissoir en se servant d'un nuage qui se trouvait à portée de main. « Si je ne veille pas sur ce garçon, se dit-elle, il ira finir le nez dans un fossé. » Elle reparut plus brillante que jamais, elle adressa même un message à toutes les étoiles de la Voie lactée, afin qu'elles envoient leurs meilleurs rayons. Ainsi, protégée par la lune et par les étoiles, Tistou, moitié marchant, moitié courant par les rues désertes, arriva sans encombre jusqu'à la prison. Il n'était pas bien tranquille, on le comprend, c'était sa première expérience. Pourvu que mes pouces verts fonctionnent bien, pourvu que Moustache ne se soit pas trompé. Tistou appliqua ses pouces partout où il put, par terre, à l'endroit où le mur s'enfonçait dans le trottoir, et dans les trous entre les pierres et au pied de chaque barreau de grille. Il travailla très consciencieusement. Il n'oublia pas les serrures de la porte d'entrée, ni même la guérite où dormait un gendarme. Quand il eut fini, il rentra chez lui, et cette fois s'endormit sans difficulté. Le valet eut même toutes les peines du monde le lendemain matin à le réveiller. « Tisti, voyons, il fit grand soleil !» Le valet Carolus, nous croyons vous l'avoir déjà dit, parlait avec un léger accent étranger. Tistou avait une question sur le bout de la langue, mais il n'osait pas la poser. Il n'eut toutefois pas longtemps à attendre pour connaître le résultat de son entreprise. Car la prison, oh là là, un coup de canon tiré par M. Trounadis sur la grande place de Mirepoix n'aurait pas fait plus de bruit. Imaginez l'effarement de toute une cité devant un pareil prodige. Imaginez la stupeur des Mirepoilus, ainsi se nomment les habitants de Mirepoix, en découvrant leur prison transformée en château de fleurs, en palais des merveilles. Avant 10 heures, la ville entière était au courant de la fabuleuse nouvelle. À midi, toute la population se tenait assemblée devant le grand mur couvert de roses et les grilles changées en charmilles. Pas une fenêtre de la prison, pas un barreau qui ne reçut sa part de fleurs. Les tiges grimpaient, s'enroulaient, retombaient. Des cactus sur la crête des murs remplaçaient partout les affreux piquants. Le plus curieux était peut-être la guérite où le chèvrefeuille avait poussé si vite que le gendarme de garde s'y trouvait immobilisé. Les plantes avaient pris son fusil pour tuteur et bloqué l'entrée. La foule, ébahie, contemplait ce gendarme qui, pacifique et résigné, fumait sa pipe à l'abri d'une tonnelle. Personne ne pouvait s'expliquer ce miracle. Personne. Sauf bien entendu le jardinier Moustache, qui vint voir lui aussi et repartit sans rien dire. Mais l'après-midi, lorsque Tistou, ayant remis son chapeau de paille, s'avança vers lui pour prendre sa deuxième leçon de jardin, Moustache l'accueillit par ces mots. « Ah, te voilà, toi. Pas mal, pas mal, le coup de la prison. Pour un début, c'est un joli début. » Tistou se sentit un peu gêné. « Sans vous, monsieur Moustache, je n'aurais jamais su que j'avais les pouces verts, » dit Tistou en manière de remerciement. Mais Moustache n'aimait guère les effusions. « c'est bon, » répondit-il. « Mais tu as abusé du chèvrefeuille, puis fais attention à l'aristoloche. C'est un grimpant qui fournit bien, mais sa feuille est sombre. La prochaine fois, force un peu sur le volubiliste, ça mettra une note de gaieté. » Ainsi, Moustache devient le conseiller secret de Tistou. Où les savants ne découvrent rien, mais où Tistou, lui, fait une découverte. Les grandes personnes ont la manie de vouloir à toute force expliquer l'inexplicable. Tout ce qui les surprend les agace, et dès qu'il se produit dans le monde quelque chose de nouveau, elles s'acharnent à vouloir démontrer que cette chose nouvelle ressemble à une autre qu'elles connaissent déjà. Qu'un volcan s'éteigne paisiblement comme une cigarette à bout de course, et voilà aussitôt une douzaine de savants à lunettes qui se penchent au-dessus du cratère, écoutent, reniflent, se font descendre par des cordes, s'écorchent les genoux, remontent, enferment de l'air dans des tubes, font des dessins, écrivent des livres, se disputent, au lieu de constater simplement « Ce volcan-là s'est arrêté de fumer, il doit avoir le nez bouché. » Sont-ils jamais arrivés au bout de compte à nous dire comment les volcans fonctionnent ? Le mystère de la prison de Mirepoix fournissait aux grandes personnes une bonne occasion de s'agiter. Les journalistes et les photographes arrivèrent les premiers, parce que c'est leur métier. Ils occupèrent immédiatement toutes les chambres de l'hôtel du Petit Saint-Jean et des ambassadeurs qui étaient le seul de la ville. Puis accoururent d'un peu partout en train, en avion, en taxi, même certains à bicyclette, les savants qu'on appelle botanistes et qui s'occupent de couper les fleurs en quatre, de leur donner des noms difficiles, de les faire sécher sur du papier buvard et de voir en combien de temps elles perdent leur couleur. Leur métier exige beaucoup d'études. Quand des botanistes se rassemblent, ils forment un congrès. Il y avait donc à Mirepoix un congrès de botanistes. S'il existe une infinie variété de fleurs, en revanche, on ne connaît que trois sortes de botanistes. Les botanistes distingués, les botanistes réputés et les éminents botanistes. Ils se saluent en s'appelant « Maître, monsieur le professeur, mon honoré confrère ». Comme l'hôtel était rempli par les journalistes qui refusaient d'en bouger, on fut obligé pour loger les botanistes de leur installer un camping sur la grande place. On aurait cru un cirque, mais c'était moins amusant. Tistou vivait dans l'anxiété. « Si l'on découvre que c'est moi, confia-t-il à Moustache, ça va en faire une histoire. »«
Ne t'inquiète pas, » répondit le jardinier. « Ce sont des gens qui ne savent même pas faire un bouquet. Ils ne découvriront rien. J'en mettrai mes moustaches à couper. »
Et en effet, au bout d'une semaine, pendant laquelle, une loupe en main, ils examinèrent chaque feuille et chaque fleur, les savants n'étaient pas plus avancés. Les fleurs de la prison étaient des fleurs comme les autres, il fallait bien le reconnaître. Leur seule étrangeté était d'avoir poussé en une nuit. Alors les savants commencèrent à se disputer, à s'excuser les uns les autres de mensonges, d'ignorance et de mystification. Cette fois, leur camping ressemblait tout à fait à un cirque. Mais un congrès doit toujours se terminer par une déclaration. Les botanistes finirent donc par en rédiger une pleine de mots latins pour que personne n'y puisse rien comprendre. Ils parlèrent de conditions atmosphériques particulières, de petits oiseaux qui auraient laissé choir les graines, d'une fertilité exceptionnelle, des murs de la prison dus à un certain usage qu'en faisaient les chiens de Mirepoix. Puis ils s'en allèrent dans un autre pays où l'on avait découvert une cerise sans noyau. Et Tistou retrouva la tranquillité. Et les prisonniers dans tout cela ? Vous avez certainement envie de connaître ce que pensaient les prisonniers. Sachez donc que la surprise des botanistes, leur agitation, leur émoi, ne furent rien auprès de l'émerveillement des prisonniers. Comme ils ne voyaient plus de barreaux devant leurs cellules, plus de barbelés de piquants au mur, ils oublièrent de s'évader. Le plus grincheux cessèrent de récriminer tant ils avaient plaisir à contempler ce qui les entourait. Les méchants perdurent l'habitude de se fâcher et de se battre. Le chèvrefeuille qui poussait dans les serrures empêchait de fermer les portes, mais les libérés eux-mêmes refusèrent de s'en aller. Ils avaient pris goût au jardinage. Et la prison de Mirepoix fut citée en exemple dans le monde entier. Qui se réjouissait le plus ? C'était Tistou, il triomphait en secret. Mais le secret est fatigant à garder. Lorsqu'on est heureux, on a envie de le dire et même de le crier. Or Moustache n'avait pas toujours le temps d'écouter les confidences de Tistou. Ainsi Tistou prit l'habitude, quand le secret l'étouffait un peu, de parler au poney gymnastique. Les oreilles de gymnastique étaient doublées d'une jolie fourrure beige, très douce et très agréable aux lèvres. Tistou, en y passant, y glissait volontiers quelques mots.
Gymnastique, écoute-moi bien et ne le répète à personne, dit Tistou un matin qu'elle rencontrait le poney dans la prairie. Gymnastique remua l'oreille. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, reprit Tistou. Les fleurs empêchent le mal de passer. Où Tistou retrouve M. Trounadis qui lui donne une leçon de misère. Il faut des événements extraordinaires pour que l'on donne vacances aux petits garçons. Une prison qui fleurit provoque certes une vive émotion, mais on se remet assez vite. Et l'on finit par trouver naturel que pousse un gigantesque massif là où naguère s'élevait un mur gris. On s'habitue à tout, même à l'exceptionnel. Pour M. Père et Mme Mère, l'éducation de Tistou redevint bientôt le principal souci. Je crois qu'il serait bon maintenant de lui montrer un peu ce qu'est la misère, dit M. Père. Ensuite, on devrait lui enseigner ce qu'est la maladie pour qu'il prenne bien garde à sa santé, disait Mme Mère. M. Trounadis lui avait donné une très belle leçon d'ordre, confions-lui aussi la leçon de misère. C'est ainsi que Tistou apprit le lendemain, sous la conduite de M. Trounadis, que la misère vivait dans des taudis. On avait conseillé à Tistou de mettre pour cette visite son vieux béret bleu. M. Trounadis embaucha sa plus forte voix de trompette afin d'expliquer à Tistou que les taudis se trouvaient en bordure de la ville. « Cette zone de taudis est un fléau, déclara-t-il. »« Qu'est-ce que c'est un fléau ?» demanda Tistou. « Un fléau est un mal qui atteint beaucoup de gens, un très grand mal. » M. Trounadis n'avait pas besoin d'en prononcer davantage. Tistou se frottait déjà les pouces. Mais ce qu'il attendait était pire à voir qu'une prison. Les chemins étroits, boueux, malodorants, se tortillaient entre des planches pourries assemblées toutes travers. Ces planches faisaient semblant de former des cabanes, mais des cabanes si trouées, si branlantes au moindre vent que l'on avait peine à croire qu'elles pussent tenir debout. Les portes étaient rapiécées, ici avec du carton, là avec un vieux morceau de boîte de conserve. À côté de la ville propre, de la ville riche construite en pierre et balayée tous les matins, la zone des taudis était comme une autre ville hideuse qui faisait honte à la première. Ici, pas de réverbère. Pas de trottoir, pas de boutique, pas d'arroseuse municipale. Un peu de gazon boirait la boue et rendrait ses chemins plus agréables. Puis du volubilis en quantité avec des clématites renforcerait ces pauvres cabanes prêtes à s'écrouler. Pensait Tistou qui les pousse en avant, tâtait toutes les laideurs qu'il rencontrait. Dans ces cabanes vivaient plus de gens qu'elles n'en pouvaient contenir. Ces gens forcément avaient mauvaise mine. À vivre serrés les uns contre les autres et sans lumière, ils deviennent pâles. Comme les endives que Moustache fait pousser dans la cave. Moi, je ne serais pas heureux si on me traitait comme une endive. Tistou décida de faire croître des géraniums le long des lucarnes pour que les enfants des taudis voient un peu de couleur. Mais pourquoi tous ces gens-là logent-ils dans des cabanes à lapins ? Demanda-t-il soudain. Parce qu'ils n'ont pas d'autres maisons, évidemment. C'est une question stupide, répondit M. Trounadis. Pourquoi n'ont-ils pas de maison ? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Pourquoi n'ont-ils pas de travail ? Parce qu'ils n'ont pas de chance. Alors, ils n'ont rien du tout. C'est cela, Tistou, la misère. Demain, au moins, ils auront quelques fleurs, se dit Tistou. Il vit un homme battre une femme et un enfant s'enfuir en pleurant. Est-ce que la misère rend méchant, dit Tistou. Souvent, répondit M. Trounadis, qui se mit à lancer une fanfare de mots effrayants. D'après son discours, la misère semblait être une horrible poule noire à l'œil furieux, au bec crochu, aux ailes aussi larges que le monde et qui couvait sans cesse d'affreux poussins. M. Trounadis les connaissait tous par leur nom. Il y avait le poussin vol, grand détrousseur de porte-monnaie, perceur de coffre-fort, le poussin ivrognerie qui se faisait offrir des apéritifs et roulait dans les ruisseaux, le poussin vice, toujours prêt aux choses malhonnêtes, le poussin crime, armé d'un couteau ou d'un revolver, le poussin révolution, sûrement le pire de la couvée. Il était évident que tous ces poussins-là devaient finir en prison. « Tistou, vous ne m'écoutez pas !» s'écria M. Trounadis. « D'abord, cessez de poser vos mains sur ces saletés. Qu'est-ce que c'est que cette manie de toucher à tout? Mettez donc vos gants. » « Je les ai oubliés, dit Tistou. Reprenons notre leçon. Que faut-il pour lutter contre la misère et ses funestes conséquences? Réfléchissez un peu. Il faut de l'or, de l'eau, de l'or. Ah oui, fit Tistou, il faut peut-être de l'or. Non, il faut de l'ordre. » Tistou resta silencieux un instant. Il ne paraissait pas convaincu. Et lorsqu'il eut fini de réfléchir, il dit « Votre ordre, monsieur Trounadis, êtes-vous bien sûr qu'il existe? Moi, je ne crois pas. » Les oreilles de M. Trounadis deviennent si rouges qu'elles ne ressemblaient plus à des oreilles mais à des tomates. Parce que si l'ordre existait, reprit Tistou, avec une grande fermeté dans la voix, il n'y aurait pas de misère. La note que reçut Tistou ce jour-là ne fut pas excellente. M. Trounadis écrivit dans le carnet Enfant distrait et raisonneur, ses sentiments généreux lui ôtent le sens des réalités. Mais le lendemain, vous avez déjà deviné. Le lendemain, les journaux de Mirepoix annonçaient une véritable inondation de volubilis. Les conseils de Moustache avaient été suivis à la lettre. Des arceaux couleur de ciel voilaient la laideur des cabanes. Des barrières de géranium bordaient les chemins des gazons. Ces quartiers déshérités dont on évitait de s'approcher parce qu'ils faisaient horreur à regarder, devinrent les plus beaux de la ville. On alla les visiter comme un musée. Les habitants décidèrent d'en tirer quelques profits. Ils mirent un tourniquet, firent payer l'entrée. Des métiers se créèrent. Il fallut des gardiens, des guides, des vendeurs de cartes postales, des photographes. Ce fut la fortune. Pour employer cette fortune, on décida de bâtir au milieu des arbres un grand immeuble de 999 beaux appartements, avec cuisine électrique où tous les anciens locataires des taudis pourraient se loger à l'aise. Et comme il fallait beaucoup de monde pour le construire, tous les sans-abri reçurent du travail. Moustache ne manqua pas à la première occasion de féliciter Tistou. « Ah, te voilà, très fort, très bien, la transformation des taudis. Mais ton quartier manque un peu de parfum. La prochaine fois, pense au jasmin, ça grimpe vite et ça sent bon. » Tistou promit de faire mieux la prochaine fois.